Le journal Xavier Demeny. Bonjour Xavier.
Bonjour Ali, bonjour à toutes et à tous. Petites entreprises, grande colère. Comment rassurer les librairies, magasins de jouets ou vêtements? Le gouvernement mise tout sur le numérique pour sauver les commerces dits non essentiels, commandes en ligne et retrait en magasin. Face à cette situation, certains maires signent des arrêtés pour autoriser les boutiques à ouvrir. Malgré tout, nous serons avec le maire de Dijon, François Rebsamen. Au sommaire également, la rentrée de lundi et les profs regrettent que l'hommage à leur collègue Samuel Paty soit tronqué. Nice, où l'enquête avance après l'attaque de la basilique Notre-Dame, jeudi, les enquêteurs ont désormais la certitude que l'assaillant est arrivé mardi sur le sol français. Nous serons aussi en Côte d'Ivoire, jour d'élection sous haute tension. Et le rugby à suivre également la fin tardive du tournoi des Six Nations 2020. Tout se joue entre la rose, le coq et le trèfle. 13h20, ce sera Secret d'Info. Jacques Monin au programme ce samedi.
Eh bien, une enquête sur SOS Éducation épinglée par la Cour des comptes. Celui qui a créé cette association ne croit pas à l'efficacité des médicaments et estime que le rôle de l'éducation nationale, c'est de fabriquer des ignorants.
À tout à l'heure, Jacques. Juste après la météo, cet après-midi, le beau temps s'éloigne au nord, le ciel s'assombrit. Samedi 31 octobre, bienvenue, c'est le journal de 13h.
France Inter.
Un soutien financier massif pour les commerces fermés promet donc encore une fois Bruno Le Maire ce matin, interview aux Parisiens après son passage hier sur Inter. Et face à la colère des commerces dits non essentiels, ces petites entreprises obligées de tirer le rideau, les librairies ou magasins de jouets par exemple, le ministre de l'économie propose d'aider à la digitalisation. Comprenez le fameux click and collect, la commande en ligne à retirer ensuite au magasin. Fabien Cazot.
En consacrant 100 millions d'euros à la digitalisation des petits commerçants, l'État espère avoir trouvé un moyen d'adoucir pour eux les effets du confinement. La crise peut même être l'occasion rêvée d'accélérer leur virage numérique, glisse-t-on au ministère de l'économie. Problème, selon Marc Sanchez du syndicat des indépendants, la bascule ne se fera pas en un claquement de doigts ni en quelques clics.
On a affaire à des populations qui sont pas encore hyper bien formées aux complexités de l'e-commerce. Alors même avec un accompagnement, on pense que ça sera trop tard pour beaucoup d'entre elles déjà, qui sont dans des situations de perte de chiffre d'affaires qui sont colossales. C'est pas une priorité, c'est quelque chose qui doit se faire à plus ou moins long terme et qui prendra du temps de toute façon. Donc par rapport à l'urgence de la situation, nous pensons que ce n'est pas une réponse qui est adaptée.
Il ne faut pas des jours et des jours pour créer un site internet, répond-on à Bercy, qui compte s'appuyer sur La Poste pour proposer aux commerçants des solutions de vente à distance. Sa plateforme déjà existante, Ma Ville Mon Shopping, sur laquelle des commerçants peuvent créer leur boutique en ligne, sera en libre accès pendant la période de confinement, sans abonnement ni commission, avec les 50 000 premières livraisons gratuites.
Et dans ces petits commerces, il y a donc les librairies comme symbole, avec cette situation ubuesque, la grande distribution ou la FNAC, obligée hier soir par le gouvernement de fermer les rayons livres pour limiter la concurrence. Dans certaines villes, enfin, des maires choisissent de braver les mesures nationales pour permettre aux libraires d'ouvrir quand même. C'est le cas à Dijon. Le maire socialiste François Rebsamen est notre invité. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Vous avez signé un arrêté municipal en ce sens. Est-ce qu'à faire des exceptions, on n'est pas surtout en train d'envoyer un message contradictoire, François Rebsamen ?
Non, parce que vous savez, nous sommes tenus en tant que maire d'appliquer les décisions que prend le gouvernement. Mmh. Et donc nous sommes en première ligne pour assurer bien sûr la sécurité sanitaire de nos concitoyens. Mais là, il s'agit d'un problème qui est un problème majeur. Et après tout, on a bien quand même le droit d'alerter le gouvernement. Moi, c'est un message d'alerte, un arrêté d'alerte que j'envoie. Je ne veux pas la mort des librairies. Or, je suis persuadé que vu la période de fermeture, aujourd'hui, c'est bien évidemment la plateforme Amazon qui va en profiter et les librairies vont être confrontées à des difficultés majeures, soit ou même sont menacées de mort. Donc, pour moi, c'est simple, c'est un commerce essentiel. Et c'est cela la différence que j'ai avec le gouvernement. On a le droit de s'exprimer. Je le fais et je dis au gouvernement, écoutez, vous n'avez pas fait grand-chose pour la culture depuis maintenant plus d'un an. Tout est bloqué. Là, nous sommes au cœur du projet. Il a fallu que Jack Lang prenne le prix unique du livre pour sauver les libraires. Et maintenant, on est en train de les tuer. Donc, moi, je me bats à leur côté.
François Rebsamen, la digitalisation, dont nous parlions à l'instant, François Rebsamen, est-ce que ça vous convainc la proposition de Bruno Le Maire?
Mais non. Et c'est autre chose, une librairie. C'est pas uniquement une commande à un vendeur de livres, un libraire. C'est quelqu'un qui sait vous parler des livres. C'est une rencontre avec les livres, les librairies. C'est pas une commande sur une plateforme. Sur la plateforme, il y a Amazon. Et je vous assure que ça marche bien, Amazon. Donc, moi, je suis très inquiet et je demande une exception. On n'en demande pas énormément, des exceptions. On a quand même le droit de faire des propositions. On n'est pas écouté, tout se décide au niveau national. Et donc, moi, je suis quand même assez en colère, voilà, parce que vraiment, c'est pas un supplément d'âme, la culture. C'est pas un supplément d'âme, le livre. C'est essentiel pour nous, pour élever le niveau de conscience. Enfin, bref, voilà, il faut une mobilisation nationale. Et je pense qu'on va être écouté par le gouvernement.
Oui, d'autres maires à Perpignan, Valence ou Montauban, par exemple, ont signé des arrêtés pour d'autres commerces non alimentaires. Vous êtes limité aux librairies à Dijon ?
Oui, bien sûr, parce que bon, je vois bien. Moi aussi, j'ai des commerçants de proximité qui me disent mais c'est pas normal. On est en plus en sécurité sanitaire en rentrant dans un petit commerce que regroupé dans des grandes surfaces. J'en conviens. Mais bon, on peut pas tout demander. Donc là, mon combat, c'est pour sauver les librairies et puis pour aider le plus qu'on peut les commerçants. Vous savez, quand vous êtes fermé, vos loyers, ils continuent de courir. Et donc, les loyers dans les centres-villes, ils sont très élevés.
François Rebsamen, en un mot, juste, est-ce que c'est pas la fin de la stratégie du gouvernement des territoires, qu'avait prôné Jean Castex?
Oui, ça a marché un moment, et puis depuis un mois, c'est terminé. Voyons, on a même envisagé à un moment de repousser la date de la rentrée scolaire sans même nous prévenir. Et donc, évidemment, c'est nous qui faisons les transports scolaires, donc ça ne pouvait pas marcher.
Et on va en parler dans un instant. Merci François Rebsamen, maire de Dijon, en direct dans ce journal de 13h sur France Inter. Bonne journée à vous. Tant que nous parlons de livres, les auteurs de BD, eux, se rebellent. Quatre parrains de l'année de la bande dessinée viennent d'annoncer leur démission au ministère de la Culture pour protester contre la fermeture des librairies. Florence Sestac, Catherine Meurice, Régis Loisel et Jules, l'auteur de la série Silex and the City.
On représente un secteur qui est extrêmement divers, qui est fait d'énormes locomotives commerciales. Et tous les jeunes auteurs, toutes les petites maisons d'édition qui, elles, sans justement cette interface dans des librairies, le fait de pouvoir flâner dans les rayons, de pouvoir découvrir, écouter son libraire, n'auront aucune visibilité. Donc évidemment, les bandes dessinées à succès vont souffrir, mais avant tout, c'est juste la créativité incroyable de chaque jeune auteur, de chaque autrice qui est vraiment mise en péril et l'équilibre de toutes les maisons d'édition les plus créatives. En fait, on est tous ultra en colère sur la dimension totalement irrationnelle de ces décisions. C'est-à-dire que c'est aussi bête probablement que les gens qui font des stocks de papier toilette. Les libraires se sont illustrés par leur immense responsabilité. Ils ont fait le maximum et en fin de compte, le fait de décider que les libraires et les librairies ne seraient pas des biens de première nécessité, c'est stupide en fait et désespérant.
L'auteur de BD Jules, également scénariste de Luc et Luc, au téléphone de Jacqueline Petros. Pourquoi certains commerces restent ouverts et pas d'autres? Dossier complet à retrouver sur franceinter.fr. Ce samedi signe donc le premier week-end de reconfinement après les annonces du chef de l'État mercredi soir. Le gouvernement avait bien promis un peu de souplesse jusqu'à dimanche pour les retours de vacances. Mais une chose est sûre, le début de ce nouveau confinement ne ressemble vraiment pas au dernier. Pas de rue déserte, loin de là, et les parcs sont ouverts. Ce n'est pas anodin quand on habite en ville. Bonjour Pauline Renoir.
Bonjour.
Vous êtes dans la capitale, parc André Citroën, 15e arrondissement, et les Parisiens profitent du beau temps.
Oui, il y a du monde, mais les distances sont respectées. Il y a les joggeurs, ceux qui lézardent dans l'herbe le nez vers le ciel, et les parents qui donnent tout pour défouler les enfants comme Marie, basket aux pieds.
On vit pas très loin du parc André Citroën, donc on a aussi cette chance-là d'être à côté d'un point de verdure. Voilà, donc ce serait trop bête de s'en priver. Alors on vient au parc, on joue, je les fais courir, parce que dans l'appartement toute la journée, c'est pas forcément évident. Et puis bizarrement, confinement, il fait beau, donc voilà, on se dit qu'on joue un peu de malchance, mais écoutez, voilà, on profite d'une heure, ce sera déjà pas mal. C'est encore une fois, l'aération, elle est hyper importante.
Pas de sport en club le samedi, donc Alexandre a choisi le parc pour jouer au foot avec son fils.
Les seules activités physiques, c'est en famille le week-end ou le soir, donc dans la limite d'une heure.
C'est vous le prof de sport alors aujourd'hui?
Absolument, en plus du père de famille la semaine.
Son fils, Augustin, 10 ans, peaufine ses passes. Normalement, il fait du sport en association le samedi.
Du basket le samedi et du foot le mercredi. Ça se passe bien. D'abord, on était sur le mur, on faisait des tirs et on a décidé de venir sur l'herbe pour pouvoir un peu sauter dans l'herbe et tout ça. Non, ça va, c'est juste les copains qui me manquent.
pas de copains, pas de groupe, juste des familles, une heure maximum dans un rayon de 1 km. Mais certains avouent qu'ils vont revenir après déjeuner.
Pauline Renoir dans l'herbe du parc André Citroën avec Martin Troadec pour les moyens techniques. Et quand nous reconfinons progressivement, nos voisins aussi font de même. Le Portugal va faire de nouvelles annonces bientôt. La Grèce va entrer dans un confinement partiel. En Angleterre, Boris Johnson doit quant à lui annoncer après-demain des restrictions plus importantes à l'échelle du pays. La presse britannique parle d'un reconfinement jusqu'au 1er décembre. Et en Belgique, c'est déjà décidé. Nouveau tour de vis pour 6 semaines au moins. Face à la flambée des cas et la crainte de voir les hôpitaux saturés, Pierre Benazé.
Les Belges ne pourront plus inviter qu'une seule personne chez eux. Le télétravail sera obligatoire partout où c'est possible. Les congés scolaires sont de nouveau prolongés jusqu'au 15 novembre et les commerces non essentiels ferment. Ce nouveau tour de vis, associé aux différents couvre-feux qui touchent tout le Royaume, amorce donc pour la Belgique un deuxième confinement. Le ministre de la Santé, Frank van den Broek, tire une énième fois la sonnette d'alarme.
Si les chiffres continuent de croître à ce rythme, c'est simple, nous n'y arriverons pas. Et donc il arrivera un moment où nos soins intensifs seront complètement saturés. Il arrivera un moment où les médecins devront faire des choix entre les patients. Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter ça? Respecter les règles à la lettre, à la lettre. Il n'y a qu'une seule solution, c'est d'avoir peu de contacts, très peu de contacts maintenant.
Le Premier ministre, en place depuis un mois, a bien tenté d'éviter ce reconfinement et il espère qu'il n'y aura pas les mêmes scènes de pénurie qu'en mars. Alexander De Croo.
Les magasins d'alimentation, les supermarchés restent ouverts. Il n'y a aucune raison, c'est inutile de faire des provisions. Ceux qui le font maintenant se comportent d'une manière asociale.
Et ce deuxième confinement sera moins dur que le premier, puisque les déplacements ne seront pas limités. Pierre Benazet, France Inter, à Bruxelles.
En bref, aux États-Unis et à 4 jours de la présidentielle où le Covid est l'un des sujets majeurs de la campagne, nouvelle flambée, plus de 94 000 cas comptabilisés en 24 heures.
France Inter, le journal de 13 heures. Xavier Demani.
L'enquête se poursuit à Nice après l'attaque de la basilique Notre-Dame par un jeune Tunisien de 21 ans jeudi et qui a coûté la vie à 3 personnes. Un troisième homme est en garde à vue depuis hier soir. Il est le cousin d'un autre suspect, lui-même déjà arrêté hier. Jean-Philippe Deniau.
Depuis 48 heures, les enquêteurs remontent les enregistrements des caméras de surveillance de Nice pour reconstituer le parcours du terroriste depuis son arrivée dans la ville mardi soir. Nice, où Brahima Issaoui n'avait a priori aucun contact. Les deux premiers hommes placés en garde à vue sont ainsi soupçonnés d'avoir côtoyé l'assaillant dans la journée de mercredi. Un troisième homme a été interpellé hier soir lors de la perquisition au domicile du deuxième gardé à vue, son cousin. Mais il est trop tôt pour déterminer si ces suspects peuvent être considérés comme des complices de l'assaillant. Entre les mains des enquêteurs, il y a les deux téléphones portables retrouvés en sa possession qui permettront peut-être de livrer des informations sur d'autres complicités. Il y a également une enquête ouverte en Tunisie, le pays d'origine du terroriste qu'il a quitté le 14 septembre pour rejoindre l'Europe via l'Italie où il a débarqué le 9 octobre. Sans que l'on sache encore quel a été son parcours dans les 2 semaines qui ont suivi, une demande d'entraide judiciaire a été lancée aux autorités italiennes. Enfin, bien sûr, les enquêteurs gardent de l'espoir de pouvoir un jour interroger le terroriste dont le pronostic vital est pour l'instant toujours engagé.
Demain, la basilique Notre-Dame de Nice doit rouvrir ses portes pour une messe de réparation prévue à 18h, l'occasion de rendre hommage aux 3 victimes de l'attaque terroriste d'avant-hier. Dans ce contexte, la rentrée scolaire approche à grands pas, dernier week-end avant le retour à l'école, au collège ou au lycée, et cela malgré le reconfinement. Lundi, les cours devaient commencer à 10h pour permettre aux enseignants de préparer l'hommage à leur collègue Samuel Paty. Mais changement de programme, la journée débutera bien à 8h comme d'habitude et l'hommage, lui, se limite à 1 minute de silence, dixit le ministre Jean-Michel Blanquer. Et ça, c'est une offense à notre collègue assassiné, regrette ce matin le SNES-FSU, principal syndicat du second degré. Sa secrétaire générale, Frédéric Rollet.
C'est absolument incompréhensible et nous sommes indignés. On a des réactions extrêmement vives. Cet assassinat avait provoqué un choc extrêmement fort dans toute la profession et nous avons besoin d'un temps d'échange, d'un temps de réflexion et personne ne comprend pourquoi aussi soudainement l'organisation a été bouleversée. Là, on n'aura pas véritablement d'hommage. On va descendre à 11h15, faire une minute de silence qui n'aurait été absolument pas préparée avec les élèves. Et puis ensuite, chacun reprend ses habitudes. Et à 8h, les élèves arrivent. On n'est pas préparé à leurs questions, à leurs réactions. Personne ne sera revu dans les équipes, puisqu'il y aura eu évidemment les congés. Donc là, c'est vraiment inadmissible. Et on a demandé très fermement au ministre de revenir sur sa décision.
Frédéric Rollet du syndicat enseignant SNES-FSU. Les enseignants et le témoignage de l'un d'entre eux à présent. Christophe Naudin, professeur d'histoire et rescapé de l'attentat au Bataclan il y a 5 ans. Il dresse dans un livre le journal de ses années passées depuis le 13 novembre 2015. À faire face d'abord et à réfléchir. Un récit qui résonne terriblement, Ilana Marioussef, avec l'actualité.
Ce livre est beaucoup plus qu'un récit de reconstruction comme on en a beaucoup lu. Par une sorte de prescience terrible, la première entrée du journal de Christophe Naudin évoque la menace qui pèse sur les enseignants.
Le 5 décembre 2015, je parle justement de la menace de l'État islamique contre les enseignants. Et l'assassinat d'Assem El Paty, ça a rendu quelque chose, une crainte que j'avais depuis longtemps, ça l'a rendu concrète en fait. Le lendemain et le dimanche, j'ai somatisé, j'ai eu des maux de tête très forts, comme j'ai toujours un peu avant les commémorations du 13 novembre, mais là, puissance 10.
Au Bataclan, Christophe Naudin a perdu un ami. Dans le journal, il consigne ses progrès, ses rechutes, ses réactions à l'actualité, surtout celles qui touchent au terrorisme islamiste. Il tient la plume en historien et en homme de gauche. S'il récuse le terme d'islamo-gauchisme, il veut comprendre pourquoi sa famille politique s'est fourvoyée.
C'est des gens qui, souvent de bonne foi d'ailleurs, pour des bonnes raisons, mais j'estime qu'ils se trompent, font un mi-ami avec des militants de l'islam politique. Alors, pas des djihadistes, hein, mais des militants de l'islam politique qui ont des valeurs conservatrices au mieux, qui ne sont pas des valeurs de gauche. Je n'accepte pas qu'on s'allie avec ces gens-là. En voulant lutter contre l'islamophobie, mais en niant ou en minimisant le phénomène djihadiste, en fait, on a fait le lit de l'islamophobie.
Quand il retrouvera ses élèves, Christophe Naudin leur parlera de Samuel Paty, mais il commencera par les écouter.
Ilana Marioussef, 13h17 sur Inter. Les Ivoiriens appelés aux urnes aujourd'hui, présidentielles sous très haute tension. 7 500 000 électeurs. Le président sortant Alassane Ouattara brigue un troisième mandat, alors que la Constitution n'en permet que 2. Face à lui, notamment l'ancien Premier ministre Laurent Gbagbo. Reportage dans les bastions de chacun de ces deux candidats avec l'envoyé spécial de France Inter à Abidjan, Côte d'Ivoire, Omar Waman.
Ce matin, il y avait beaucoup de monde devant le collège Anador de la commune d'Abobo, dans le nord d'Abidjan.
Voilà mon cas d'électeur.
Une foule compacte.
Je vote Anador.
Sûr de son choix.
Alassane Dramane Ouattara.
Comme Mariam, une commerçante.
Parce que dans tous ces mandats qu'il a fait, il n'y a pas eu de problème, rien. On dort tranquille, on se réveille tranquille. La paix.
Dans ce bastion, fidèle au président sortant, 2 mandats d'Alassane Ouattara ne suffisent pas.
Il n'a qu'à mourir au pouvoir.
Mais c'est une toute autre ambiance qui règne à Yopougon.
Faites très attention parce que le quartier est très dangereux. C'est un quartier pour Gbagbo. Les gens souvent empêchent des gens de voter à tout moment. Ça peut dégénérer quoi.
Cet agent de sécurité semble bien seul devant ce bureau de vote installé dans une école maternelle.
Même je vous le dis présentement, j'ai peur.
Fatou, professeur de français à Yopougon, a bravé les intimidations et les menaces de l'opposition.
Mais je suis venu voter. Vous avez vu l'accoutrement, je suis déjà en pantalon. Au cas où, j'ai fui.
Des véhicules de police patrouillent dans ce quartier devant des habitants résignés. Shérif a suivi le mot d'ordre de l'opposition.
On ne doit plus laisser un président africain faire 3e mandat. Il faut arrêter ça. Nous, on ne le reconnaîtra pas.
Une position très largement partagée ici qui augure des lendemains d'élections difficiles. Abidjan, Gilles Gallinaro, Omar Waman, France Inter.
Course contre la montre en Turquie pour retrouver les survivants au lendemain du séisme qui a frappé près de l'île grecque de Samos. Les secouristes sont à l'œuvre, particulièrement dans la région d'Izmir, à l'ouest de la Turquie. On dénombre déjà un total d'une 30aine de morts et plus de 800 blessés. Le sport, il y a du rugby à suivre cet après-midi avec un tournoi qu'on avait perdu de vue, le tournoi des 6 nations, match en retard de l'édition 2020. Dans l'ordre, 15h15 Pays de Galles-Écosse, 17h40 5 Italie-Angleterre et à 21h France-Irlande au Stade de France à huis clos, faut-il encore le préciser. Et pour le trophée final, c'est un savant calcul de points. L'Angleterre, par exemple, si elle veut gagner le tournoi, se doit de décrocher la meilleure victoire possible cet après-midi à Londres, Haute-Soufi.
La confiance règne ici chez les commentateurs sportifs. Le 15 de la Rose est assuré d'une victoire confortable contre les Azzurri, toujours dernier du tableau avec 0 point. Mais pour remporter le tournoi, gagner le match ne sera pas suffisant. L'Angleterre doit d'abord prendre le bonus avec 4 essais, puis croiser les doigts en attendant la rencontre de ce soir entre la France et l'Irlande. Car si le 15 du trèfle, actuellement en tête, emporte aussi le bonus, le trophée échappera aux Anglais qui vont donc espérer une belle performance des Français. Si l'Irlande ne réussit pas à décrocher le bonus, tout se jouera au point. Le 15 de la Rose doit donc en marquer un maximum à Rome. C'est ce que le sélectionneur Eddie Jones a demandé à ses joueurs en insistant sur le contexte général. Remporter le tournoi Destination peut remonter le moral du pays, a-t-il dit, alors que le Royaume-Uni détient toujours le record du nombre de morts en Europe dû au coronavirus et que le gouvernement s'apprête à annoncer un confinement national la semaine prochaine. À Londres, Otsoufi, France Inter.
Le sport pour remonter le moral des troupes si vous êtes amateur de foot. Suite de la 9e journée de Ligue 1 en France. Ça se passe à l'Ouest. Rennes reçoit Brest cet après-midi et le PSG est à Nantes à 21h.
La météo avec Bureau Vallée, spécialiste depuis 30 ans en papeterie, fourniture et mobilier de bureau.
Jean-Michel Golinski, Météo France.
Le temps perturbé, pluvieux, accompagné de rafales vers 100 km à l'heure sur les côtes, 70 dans les terres, arrivé par la Bretagne, va gagner cet après-midi la frontière belge, le bassin parisien et le centre. Sur le nord-est, la pluie va commencer une fois la nuit tombée. Plus au sud, ambiance calme, sèche et ensoleillée, mais le pourtour méditerranéen et la Corse vont tout de même conserver une certaine dose de grisaille. La masse d'air en provenance d'Espagne est chargée de douceur. Il est prévu 26 degrés cet après-midi sur le Pays Basque, plus généralement 20 à 24 dans la moitié sud et 17 à 20 du nord de la Loire au nord-est. Demain, toujours dans la douceur, pas de changement dans l'aspect général du ciel, avec de la pluie et un vent turbulent, l'essentiel de la journée dans la moitié nord. Des brouillards suivis de soleil plus bas, avec toujours un risque de temps plus gris sur la Corse et de la côte d'Azur au golfe du Lion.